L'Allemagne Écosse, coup d'envoi à 19h en temps universel. Pour l'instant, il est 12h10 à Paris et la suite sur RFI, c'est 8 milliards de voisins.
Midi 10 sur la clé des ondes, vous écoutez le plat de résistance et comme chaque vendredi dans ce plat de résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Je vous propose d'approfondir notre connaissance de la Kanaky que nous avions abordée dans la chronique internationale la dernière fois avec notre invité. Bonjour, bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Voilà, donc je vous présenterai aussi la chronique internationale et nous conclurons avec les rendez-vous de l'agenda. Nous serons accompagnés par des illustrations musicales avec Charlotte et Fabienne à la programmation musicale. Notre dernière chronique internationale vous a présenté la situation en Kanaky. Nous pressentions l'inévitable embrasement du pays kanak face au mépris de l'État colonial français. Toujours le recours à la force et l'incapacité de dialoguer de la part des gouvernants au service des puissants et des plus riches. L'ordre républicain sera rétabli quoi qu'il en coûte. Ce sont les mots du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cela illustre bien la fermeture au dialogue. Et la présidence de Macron a particulièrement été le symbole du mépris des puissants envers les plus faibles, ce qui n'empêche pas les plus faibles de résister de belle manière et au final de gagner au moins à faire passer leur message et leur existence face à ceux qui veulent les invisibiliser, les effacer de l'histoire. Ici, ce serait plutôt éviter l'indépendance, quoi qu'il en coûte. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Achaïra, c'est l'émission du Cercle Libertaire Jean Barué, animée par des anards d'ici et d'ailleurs.
Achaïra, c'est le rendez-vous mensuel de pollinisation libertaire de La Clé des Ondes.
De 20h à 22h, tous les premiers lundis du mois.
Achaïra, Achaïra, Achaïra.
Achaïra, l'émission du Cercle Libertaire Jean Barué.
Voilà, donc avant de lancer cette émission, nous ne pouvons taire la répression internationale à l'encontre de celles et ceux qui réclament un cessez-le-feu face au risque génocidaire à Gaza, que ce soit au travers de leurs écrits ou par des manifestations. USA, Allemagne, France et même Espagne et bien d'autres pays criminalisent l'appel au cessez-le-feu et à la fin de la colonisation de la Palestine et sont laxistes face aux crimes de guerre commis par Israël. Nous dénonçons le recours au prisme de l'antiterrorisme pour critiquer les partisans, criminaliser les partisans du cessez-le-feu ou les opposants au bétonneur Lafargue. Finalement, pour ce pouvoir, tout opposant est un terroriste potentiel, une façon de généraliser le « il faut terroriser les terroristes » de l'inénarrable Charles Pasqua. Nous apportons notre soutien à la personne arrêtée lors de la Pride à Bordeaux, soupçonnée d'avoir tagué sur le mur de l'école de magistrature. Vos enfants étudieront votre silence dans les livres d'histoire Free Gaza. Et aux membres de la Batucada féministe, agressés en revenant de la Pride par des jeunes violents avec des propos homophobes.
Chronique de la désobéissance.
Louise Michel, une artiste en révolution. L'art, c'est le frémissement du futur. Il n'y a de beau que la lutte, déclara Louise Michel lors d'un entretien avec un journaliste. Et, dans un sens fort, pleinement esthétique, ajoute Claude Retta, autrice et éditrice de deux livres qui donnent à ceux et celles qui ne veulent voir en Louise Michel que la combattante de la Commune, une image des plus nuancées de cette femme qui écrivit poèmes, très imprégnés de Victor Hugo, contes, prose poétique, où elle se libère, récits divers, romans, légendes, etc. Hugo, assurément. Mais elle coudoya aussi les symbolistes, les décadents, les incohérents de Jules Lévy, assure Claude Retta, qui, à propos de Louise, nous dit encore « Elle montre avec surévidence qu'un militantisme peut s'enraciner dans un terreau d'imaginaire et d'art, et qu'il y a rapport direct échange substantiel entre l'un et l'autre. L'esprit révolutionnaire se communique par un travail obscur et qu'on ne peut suivre. Louise Michel dessinait, un certain nombre de reproductions sont données dans la Révolution en comptant, elle aimait la musique et Wagner en particulier. Les nerfs montés comme des harpes, le cerveau hanté de songes grandioses, le cœur plein d'amour. C'est ainsi que Louise trace un portrait de l'artiste. Plus tard, Louise Michel écrira « La musique kanak, avec ses quarts de ton, ressemble au vent, au bruit de bois, au flot. Souvent, elle est douce, quelquefois rauque. Parfois, on dirait des gouttes d'eau tombant sur les feuilles. » Mais rappelons sa profession, institutrice, et de plus, une enseignante très moralisatrice. Un peu datée peut-être, comme le montre le livre du jour de l'an. Historiette, contes et légendes pour les enfants. Texte écrit dans la prison d'Auberive avant son départ pour la Nouvelle-Calédonie. D'autres contes et d'autres récits présentent un aspect plus rude, comme cette référence à Gilles de Rais quand elle parle des ogres. De même, l'histoire de la vieille Chichette, créature sauvageonne qui finira sa vie en s'offrant généreusement en sacrifice. Personnage qui porte sans doute en lui bien des aspects de Louise Michel elle-même. Aussi peut-on ne pas craindre la mort. Nous citons, les pères ont bu la vie, dormez au père. Dormez longtemps, le rêve est bon, ne plus rêver est meilleur. Les parfums les plus doux quand les fleurs sont coupées, il est d'âcre senteur dans les herbes fauchées. C'est la chanson du printemps.
C'est de Nouvelle-Calédonie, dans les légendes et chants de gestes kanak, que Louise rapportera des récits où elle n'hésitera pas à intégrer les mots autochtones, comme ceux désignant la femme la popinée ou encore la nemo, c'est-à-dire rien, ou alors un objet d'utilité. Car la femme en Calédonie ne compte pas, nous dit Louise, qui, très à l'écoute de la parole kanak, se fera pour eux l'institutrice du dimanche, en abordant tous les sujets possibles dont, semble-t-il, il ne reste pas de traces. Elle n'hésitera pas dans ses textes à mettre en parallèle les légendes des îles océaniennes, où elle a vécu environ 7 années, avec les nôtres, que ce soit celle de Faust ou celle d'Orphée, cette dernière à partir d'une légende iroquoise. Et puis, bien d'autres encore. Pour son caractère par trop simpliste, et parce qu'on ne pense pas qu'avec des slogans, nous avions critiqué par ailleurs la magnifique formule attribuée à Louise Michel. Je cite « Le pouvoir est maudit, c'est pour cela que je suis anarchiste ». Cela en avançant la distinction qu'il faut faire entre le pouvoir sur et le pouvoir de, autrement dit, entre la domination et la possibilité individuelle d'agir librement. Sans doute était-ce là pinaillé. Embarquée à Saint-Marcin-de-Ré sur le Virginie le 9 août 1873, elle ne reviendra à Paris qu'en novembre 1880. En 1878, elle sera solidaire des révoltés kanak et du grand chef Ataï, qui sera assassiné par un traître et dont le crâne séjournera longtemps dans un musée parisien. Pour finir, ou pour n'en pas finir, ajoutons que Louise ramena de Nouvelle-Calédonie des mots kanak par poignée et, constatant que les mots passent d'une langue à l'autre tout en conservant leur vitalité, elle rêvait de voir se construire une langue qui deviendrait lentement universelle. Dans le pays où elle avait été envoyée de force, elle contemplait de jour, de nuit, le spectacle des cyclones qu'elle comparait à des révolutions. Devant l'océan, devant les montagnes et les bouleversements géologiques, elle s'enthousiasmait et se mettait à rêver à d'autres chambardements, libertaires et égalitaires, cela. Quoi qu'on dise, nous adopterons le propos de Verlaine dans sa ballade et dans son refrain « Louise Michel est très bien ». Donc c'était Claude Retta, Art vaincra, Louise Michel, l'artiste en révolution et le dégoût du politique. et Louise Michel, La Révolution en comptant, histoire, contes et légendes, textes réunis et présentés toujours par Claude Retta.
Oui, dans cette chronique, André nous parlait de ces deux ouvrages, parus tous les deux aux éditions Bleu Autour. Alors, Bleu Autour est une petite maison d'édition installée dans l'Allier depuis 1996 et qui a eu la particularité d'éditer beaucoup de livres concernant la période de la Commune. Et en particulier, ils ont édité les quatre albums du dessinateur Éloi Vallat sur la Commune, dont le dernier s'intitule « Louise » au pluriel, « Les femmes de la Commune ». Ici, André a chroniqué deux ouvrages de Bleu Autour, l'un de Louise Michel elle-même, les textes réunis par Claude Retta, et l'autre, un essai de Claude Retta sur Louise Michel. Alors, qui est Claude Retta ? Claude Retta est directrice de recherche au CNRS de Lyon. Elle est spécialiste des rapports entre littérature et politique, et donc, elle a écrit et coordonné différents ouvrages autour de Louise Michel, dont la réédition de La Commune en 2015 aux éditions Gallimard Découverte, avec une préface d'elle, bien sûr. Et donc, dans cette La Commune, écrit 25 ans après les événements, Louise Michel revient sur jour par jour la particularité des événements qu'elle a vécu. Avec ici des éclaircissements, des critiques, un index et des photographies également. Également, Claude Retta a aidé à la publication des mémoires, mémoires de 1986, mémoires de Louise Michel, dans une réédition qui date de mars 2021. Donc c'est un travail sur Louise Michel que Claude Retta a mené, un travail impressionnant, parce qu'elle s'est attachée à sortir de l'ombre l'œuvre littéraire de la militante féministe anarchiste, dont la liberté d'inventivité est véritablement assez, vraiment sidérante. Et Claude Retta, donc, est parti du fait que les luttes de cette infatigable militante sont bien connues, notamment la place importante qu'elle a tenue au moment de la Commune de Paris en 1871, et son idée est qu'il faut la redécouvrir ou la découvrir en tant qu'écrivaine, car elle écrivit des romans, des contes, des poésies, des ouvrages encyclopédiques. Elle s'est intéressée à la musique, à la géologie, aux astres. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. Elle a écrit différents articles, dont un étonnant roman d'anticipation intitulé « La chasse au loup », des nouvelles qui sont réunies sous le titre « Crimes de l'époque », qui naviguent entre Edgar Poe, Jeanne Sue, ou même journal ou presse à sensation. On peut dire que pour tout ce travail, Claude Retta a dû avoir recours à la consultation de différents ouvrages dans des bibliothèques parisiennes, parce que certains ouvrages de Louise Michel n'étaient qu'à l'état de manuscrits. Et elle a prolongé ses pas plus loin, elle est allée jusqu'à l'abbaye d'Auberive où Louise Michel a été emprisonnée pendant un an et demi. Puis à Amsterdam, et même Claude Retta est allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour retrouver certains écrits et mettre en perspective, archiver dans les textes dont on disposait déjà. Alors, c'est vrai que Louise Michel disait elle-même que, au fond, j'ai toujours été une artiste. Je suis une artiste en révolution. C'est le titre choisi par André pour cette chronique. Et les textes, pour la plupart, sont des textes assez brefs, avec une sorte d'imagination débordante qui transporte le lecteur à travers les siècles, fait franchir les monts pour les rejoindre le monde kanak. Et elle s'essaie à des registres tout à fait différents. Ce que l'on peut dire encore, c'est que concernant Louise Michel, Claude Retta remarque qu'elle écrivait en permanence et dans toutes les circonstances, mais vraiment les plus diverses, en prison, en déportation. Elle écrit sur le bateau, la Virginie, sur lequel elle est déportée. Elle écrit à son retour à Paris, enfin jusqu'à sa mort. Et elle publie dans la presse, en feuilleton, puis en recueil. Donc, ce qui est important aujourd'hui et dans l'axe de notre émission, c'est qu'aussi on l'aperçoit, Louise Michel, en tant qu'érudite, cherchant à connaître la langue et les traditions kanaks, lisant les voyages, les voyageurs, les missionnaires qui ont écrit sur la Nouvelle-Calédonie et produisant un glossaire des mots, ce qu'elle appelle les mots répandus dans les tribus, à la fin de ces légendes et chants et gestes kanaks. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans son livre sur les mémoires ce qu'elle dit de son séjour en Calédonie, Louise Michel. Alors, c'est la cinquième partie de son ouvrage La Commune, pardon, pas les mémoires, La Commune, où après avoir parlé de sa bien des journées vécues au moment de la Commune, de son arrestation, de son procès, de sa condamnation, puisqu'elle était condamnée le 16 décembre 1871 à la déportation en enceinte fortifiée. Donc Louise Michel va raconter en fait son trajet vers la Nouvelle-Calédonie. Elle dit que déjà à 20 femmes, elles ont été rapatriées de Versailles vers la prison d'Auberive, où elles arrivent en décembre 71 et elles vont attendre jusqu'en août 1873 la décision de déportation elle-même et d'embarquement sur la Virginie. Alors donc, elles sont toujours les 20, et Louise Michel insiste sur le fait que, bon, elle est nommée, c'est la numéro 1, elle a ce chiffre, Nathalie Lemel est la numéro 2, etc., etc., donc les 20. Donc, à bord de la Virginie, elles sont placées dans une cage, hein, elles étaient dans des cages, arrière tribord. En face d'elles, de ces 20 femmes en cage, eh bien, c'est une cage d'hommes dans laquelle il y a, entre autres, Henri Rochefort, avec qui elles vont finalement établir contact, lier connaissance, bien que les conversations soient prohibées, bien sûr. Mais enfin, ils arrivent même à s'écrire et Rochefort lui écrit une lettre à ma voisine de tribord arrière. Bon, voilà, ils arrivent quand même à communiquer. C'est un voyage absolument épouvantable où et Nathalie Lemel et Rochefort sont affreusement malades, mais pas Louise Michel qui... Elle dit qu'elle a honte de dire que ce voyage a été une expérience absolument extraordinaire pour elle et que donc elle a vu donc la haute mer, les mers polaires et elle a vu tout ce voyage avec un certain émerveillement. Arrivée à Nouméa, alors bon, il y a eu tout un mouvement de protestation de ces 20 femmes parce que il était question de les mettre à l'écart des hommes, et elles ont dit que non, qu'elles étaient des prisonnières politiques comme les hommes, et qu'elles tenaient à être aussi avec les hommes, qu'il n'y avait pas à faire insulte, et qu'elles se jetteraient à la mer si elles n'étaient pas, détenues au même endroit que les hommes. Donc finalement, elles ont eu gain de cause, et elles ont été donc conduites à la presqu'île du Cos, avec un petit décalage. Voilà, là, une des premières impressions de Louise Michel, c'est la rencontre avec le chant kanak, parce que c'est la rencontre avec un garçon qui s'appelle Downey, un kanak qui chante d'une voix grêle, nous dit Louise Michel, avec des quarts de ton étranges, que plus tard, il voulut bien me dicter. Donc, on voit bien aussi l'attention qu'elle porte et à la voix kanak, à la musique kanak et aux paroles kanak. Elle parle, Louise Michel, aussi de la manière dont ils habitent là-bas, dans une petite ville qui est dénommée Numbo, qui lui faisait penser à la ville de Troyes, avec des bâtiments que peu à peu, chaque nouvel arrivant ajoutait au précédent. Ce sont des cases en briques de terre séchées au soleil. Et elle énumère toutes les différentes cases, celle de Rochefort qui est en haut d'une butte, telle autre qui est dans une grotte, un autre qui l'a bâti au bord de la mer. Des cases qui sont comme ça un petit peu énumérées, mais elle dit « je me souviens de toutes ». Elle repère d'ailleurs un lieu où, une sorte de cabane en planche, où elle pourra établir sa première école, l'école pour les jeunes déportés. Alors ce qui était absolument extraordinaire, c'est son attention à l'environnement et le recensement de la faune et de la flore auquel elle va procéder. la faune avec des insectes qui filent, des araignées à soie, des animaux qui n'ont pas de venin mais qui fascinent leur proie, des serpents accrochés, des oiseaux à lunettes, des chats sauvages, dont elle dit que c'est peut-être des descendants de ceux laissés par Cook, bon, qui sont devenus pêcheurs et qui ont développé des pattes arrière assez imposantes à force de sauter. Elle fait un recensement de la flore aussi avec des lianes qui se couvrent de fleurs de foiland, des arbustes couverts de minuscules fleurs, des pommes de terre et des haricots arborescents, des fraises, des ricins, des plantes à coton. Et elle observe également différentes plantes qui produisent des feuilles. Alors, en particulier, c'est le niaouli, peut-être que Charlotte pourra nous en parler ensuite, le niaouli, une plante qui porte des chenilles phosphorescentes et dont la feuille pourrait s'assimiler à une feuille adutée. Bon, c'est un ersatz. Et la fleur qui, en infusion, apporte le sommeil, et Louise Michel nous dit, plus efficace que le haschich. Donc, elle connaissait déjà le haschich. Bon. Et Louise Michel va se livrer à toute une pratique de botaniste et elle va même vacciner des plantes, en particulier les papayers qui sont dont certains meurent de la jaunisse. Elle va les vacciner, elle va opérer des vaccins et elle va sauver des plantes. Elle continue sa vie, la description de leur vie de déportée, qui à un moment de voilà, il y a un virage important au moment de l'évasion de Rochefort et de cinq autres des détenus, parce qu'à ce moment-là l'administration est complètement affolée et même si les déportés sont en franche gaieté, nous dit Louise Michel, pour de l'autre côté des gardiens, bon, c'est une véritable rage et à ce moment-là ils vont subir des rétorsions avec une surveillance accrue, avec des privations de pain s'ils ne se rangent pas par deux, en rang de deux au moment de l'appel, des transferments et malgré leur résistance, finalement, Louise Michel, Nathalie Lemel et d'autres devront finalement se transférer et quitter les lieux qu'elles avaient déjà aménagés. Il y a aussi des accusations de mauvaise vie tout à fait fausses portées contre certaines femmes avec des peines d'emprisonnement pour les maris qui protestent et des amendes. Voilà, donc un sale moment qui s'offre aux déportés qui pourtant continuent à bénéficier du courrier. Voilà, donc ça c'est assez remarquable. Voilà, donc sa relation avec les Kanaks, eh bien, elle dit que certains étaient dressés à agir contre les déportés, c'était la police indigène, mais d'autres donc se sont révoltés, comme l'on sait. On aura l'occasion de revenir, voilà, avec le chef Ataï, et également les Kabyles qui sont déportés et qui sont là subis. Voilà. Et Louise Michel finit presque son livre sur la commune et ce chapitre en parlant de son action d'institutrice, puisqu'elle était institutrice diplômée, et la manière dont elle a dispensé de l'enseignement, d'abord sur son lieu de détention et après près de Nouméa, puisque ils avaient obtenu l'autorisation d'être un peu plus libre avec un permis de séjour et d'avoir des relations plus normales, on va dire, avec la population locale, à qui elle avait promis de revenir pour installer des écoles, mais bon, l'histoire a fait qu'elle n'est pas revenue.
La Chaïra n'est pas terminée, mais on va passer un petit morceau de musique parce qu'il faut laisser souffler Esmeralda, merci. Nothing and niminang. Nay, ni sohina yanani.
Mouta negana chidia. Aimun la paneka repini. Aimun me mine la wene wi wingo. Eyo la nothing any minang. Nothing any minang. Nothing any minang. Je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens voir l'eau de ma terre. Revenir auprès de ma mère.
Mon pays, ma terre, mon amour.
Je reviens,
je reviens
voir l'eau de ma terre.
Je reviens.
De ma mère.
Mathieu, 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 Johnny, a canothag. La nengo dey. Gahete lam, mine moka nipihe. Back up, back up, back up, tro. Nisoti a inu. Uti hat, Johnny, a meg. Pinela ka, ela na, deng eni minang. Na, deng eni minang. Na, nothing any minang. Je reviens, je reviens.
Je reviens.
Nothing any minang. Nothing any minang.
Revenir.
Je reviens.
Auprès de ma mère. Je reviens.
Mon pays, ma terre, mon amour.
Voir l'eau de ma terre.
Je reviens.
De ma mère.
Eni helai, gashamai te jaya chonge, pache palakani, fese sewka, gashama, aemuna nango eni. Eni helai, nothing any minang. Eni helai, nothing any minang. Eni helai, nothing any minang. Je reviens, je reviens, je reviens.
Je reviens voir l'eau de ma terre. Revenir auprès de ma mère. Je reviens voir l'eau de ma terre.
Voilà, nous avons une invitée et c'est elle qui a choisi toute l'illustration musicale de cette émission. Donc je vais lui laisser la parole pour nous présenter les morceaux.
Merci
Charlotte,
beaucoup.
À toi.
Alors c'était Paul Wameau avec son morceau Je reviens, cette nostalgie. Il raconte quand il rentre à Jeou en Nouvelle-Calédonie. C'est un artiste incroyable, un slammer, un pluridisciplinaire dont je suis absolument fan.
Voilà, vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes 90.1.
L'invité.
Allez. Musique.
Non. Une larme versée et une Marseillaise entonnée, la Nouvelle-Calédonie reste française.
Des magasins en feu, des supermarchés et des usines. Incendiées aujourd'hui encore à Nouméa.
Pour nous, nous considérons que c'est une recolonisation du pays et du peuple kanak.
La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique.
Le très attendu résultat de ce troisième référendum d'autodétermination est accueilli avec fierté.
Et partout dans les rues de la ville, des carcasses de voitures et des débris calcinés.
Évidemment que c'est du racisme anti-blanc, évidemment que c'est une volonté de nous faire partir.
Le temps des colonies est fini.
Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ans.
Nos ancêtres. Comment vivaient-ils les Gaulois?
Sauvages.
Des sauvages, donc comme vous autres, hein?
Oui.
Voilà, c'était un extrait de Blast. Le macronisme est aussi un colonialisme. Voilà, et puis pour lancer notre entretien avec Charlotte, commencer par deux citations. Kanak, mot invariable d'origine polynésienne, signifie homme, être humain ou personne. C'est pourquoi qui se veut respectueux des autres, de leur société, de la coutume au pays Kanak, peut, pourra devenir Kanak sans considération raciale. Une autre citation, « Kanaké est l'un des plus puissants archétypes du monde mélanésien. Il est l'ancêtre, le premier-né, il est la flèche fêtière, le mât central, le sanctuaire de la grande case, il est la parole qui fait exister les hommes. » Jean-Marie Tchibaou lors de Mélanésia 2000 en 1975. Voilà, nous sommes très heureux de te recevoir, Charlotte, pour parler d'actualité, puis peut-être un peu plus largement de parler de ça. Voilà, est-ce que tu peux déjà te présenter ton rapport avec la Kanakie, au nom de qui tu parles?
Alors bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne pour parler de mon pays, la Kanakie Nouvelle-Calédonie. Je suis Charlotte Desfontaines, je suis métisse Kanak. Ma mère est originaire de Balade, c'est à l'extrême nord du pays, nord côte est, sur la commune de Puebo. C'est la chefferie Boarivimawa'ap qui, en 1774, a accueilli James Cook. C'est là qu'il est arrivé. D'accord. Qui, en 1843, a reçu aussi les premiers missionnaires maris. Enfin, c'est là que tout a commencé, parce que c'est la prise de possession s'est aussi passée à Balade, dont je suis originaire. Donc. Voilà, et très humblement, je viens vous parler de l'histoire, de la culture, de la société Kanak pour une meilleure compréhension de l'actualité, si je le peux. Et j'ai quand même reçu l'appui et l'autorisation de mon clan pour prendre la parole ce soir.
Et est-ce que par rapport à la chronique de début, justement, sur les significations des mots Kanak, est-ce que tu as des commentaires à faire? Est-ce que tu ressens la chronique, la signification de ces mots Kanak, l'interprétation?
Alors, les mots Kanak, je les ai notés effectivement. Alors, il n'y a pas de mots Kanak puisqu'il y a au moins 28 langues vernaculaires, donc il n'y a pas de langue Kanak. Les mots qu'elle a entendus étaient de là où elle était, en fait, des clans qui étaient autour d'elle. Et il y a le mot popiné qui m'a un petit peu embêtée, parce que c'est vrai qu'elle l'a repris, mais c'est un mot d'un autre temps, puisqu'il est rapidement devenu synonyme de prostituée, en fait. Donc c'est un mot qu'on n'utilise plus du tout, même si on dit toujours la robe popiné, plutôt que la robe mission, maintenant on dit la robe Kanak, quoi. On n'utilise plus ce terme-là. Mais je l'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune. Hein.
D'accord, ce n'est pas une invention totalement. Ouais, d'accord. Et donc, oui, tu dis cette question d'autorisation de parler, ça fait référence à quoi? Comment ça se passe?
Alors, c'est un peu complexe, mais à expliquer. Le Kanak, en fait, dépend de son collectif. Le collectif passe avant l'individu. Quand moi je prends la parole, en fait, c'est ma mère qui prend la parole, c'est mon grand-père qui parle, et donc tous les mots qui sortent de ma bouche peuvent être pris comme sortant de mon clan. Voilà, je ne suis pas toute seule, je ne parle pas en mon nom, de la même façon que quand je vais en Nouvelle-Calédonie, quand je vais dans mon clan, je marche sur les pas de ma mère, même si elle n'est pas là, c'est comme si c'était elle qui foulait la terre, et donc je dois marcher comme elle et suivre son chemin et aller dire bonjour comme elle le ferait. Je ne suis pas seule.
C'est un héritage culturel vivant.
C'est un peu... je dis souvent, pour expliquer les choses, que c'est comme un... Comme une masse de cellules, en fait. Mmh. Si une des cellules bouge à droite, ça fait bouger tout le clan. Donc si une des cellules fait un faux pas, le faux pas est pour tout le clan. Et quand tout le clan, toute la masse bouge dans un sens, toutes les cellules suivent et suivent le travail. C'est-à-dire qu'on fonctionne tous ensemble et chaque individu, chaque pas de l'individu impacte tout le clan.
Quand tu parles de clan, c'est limité à la famille ou c'est plus large que cela?
Alors ça dépend des chefferies, en fait. Moi, quand je parle de mon clan, c'est mon nom de famille, le nom de famille de mon grand-père, sur 5 générations. Voilà, c'est lui et ses descendants. Ça, c'est nous, parce que nous, on a tous les membres de la famille avaient été éradiqué. Il ne restait plus que mon arrière-grand-père, grand-père Emmanuel, qui a dû reconstituer le clan. En fait, il était tout seul, il a dû reconstituer le clan. Donc, c'est nous qui fonctionnons comme ça. Voilà. Dans d'autres endroits, ça se passe différemment.
Et il y a deux choses sur la notion du temps. Il y a d'un côté, ce qui fait... qui a fait polémique, c'est qu'au moment du référendum, il y avait une notion de deuil et qu'il fallait un certain temps. Et pareil, pour les mobilisations, à un moment donné, tu as dit, mais nous, ça ne se passe pas instantanément, il faut un certain temps. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette notion du temps?
Alors, Jean-Marie Tjibaou résumait ça très simplement en disant, vous avez la montre et nous avons le temps. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas réglées de notre vivant se régleront avec les générations suivantes, en fait. Il n'y a rien qui presse. L'important, c'est que tout le monde puisse prendre la parole, que tout le monde soit entendu, tout le monde soit respecté et qu'on finisse par trouver consensus. Et pour certaines choses, ça a l'air très simple de trouver un consensus, mais il y a des choses plus complexes qui prennent beaucoup de temps, voire des générations.
Le consensus se pratique au sein du clan ou au sein des villages, à tous les niveaux?
Ouais.
C'est un mode de fonctionnement traditionnel.
C'est ça, c'est comme ça que ça
d'accord.
s'est toujours passé.
Toujours passé
et c'est
d'accord.
même, comment dire, ça n'a pas besoin d'être dit. Les choses se passent comme ça, c'est-à-dire que tout le monde doit être autour de la table. Et si certains ne sont pas là, alors on va recommencer, on va redire les mêmes mots, on va recommencer, voilà, reparler, que tout le monde puisse entendre, que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on puisse réussir à trouver la meilleure solution. Et tant que c'est brûlant, tant que c'est pas apaisé, ça pourra pas avancer.
Donc le principe majoritaire pour vous, c'est fait pas trop de sens.
Le système, ça n'a aucun sens. Et le fait que quelqu'un nous impose une date ou un timing n'a aucun sens non plus. Ou un texte à voter en disant oui ou non, non, il faut que les choses se construisent et qu'on prenne le temps pour ça. Et ce que je disais par rapport au temps, c'était par rapport à la construction d'un collectif Kanak sur Bordeaux, en fait. On s'est déjà rencontrés, on va à nouveau se rencontrer, on va tous prendre le temps de se voir tous, de se connaître tous, de refaire chacun notre généalogie. Pour voir à quel endroit nos arbres généalogiques se rencontrent, qui on est les uns pour les autres, et puis poser nos mots, poser nos colères, pour réussir à aller tous dans le même sens, parce qu'on va créer cette nouvelle masse cellulaire, et il faudra que toutes les cellules aillent ensemble dans le même sens.
Et ce que tu dis là, c'est valable pour l'entièreté de la Nouvelle-Calédonie ou c'est pour l'île? Parce qu'il y a plusieurs. Enfin, ça, il y a beaucoup d'îles en fin de compte. Enfin, beaucoup. Je sais pas, il y en a plusieurs.
Il y a trois îles Loyauté, plus l'île des Pins, il y a la Grande Terre et il y a encore Bélep. Enfin, il y a plusieurs îlots, mais voilà, c'est ça, grosso modo.
Et
en fait, c'est le fonctionnement. L'Ifou, c'est une des îles Loyauté.
Ah, d'accord. Ouais.
Voilà. Et c'est grosso modo le fonctionnement kanak, mais je pense que c'est aussi le fonctionnement mélanésien, voire même peut-être polynésien. C'est un fonctionnement océanien.
D'accord. Et dans ces traditions, comment se passe la place des femmes, du genre?
Alors ça, c'est un sujet très pointu encore, parce que si on a une vision ethnocentrée, on peut se dire qu'il y a des inégalités, qu'il y a... Voilà. Il faut remettre les choses avec ce contexte de clan, où chacun a sa place, chacun a son rôle à tenir. De la même façon, les hommes tiennent un rôle, les femmes tiennent un autre rôle, et... quand je parle en tout cas à mes mamans, à mes tantes, elles sont féministes, c'est-à-dire qu'elles défendent la place de la femme, elles sont contre les violences conjugales, etc. Mais elles refusent qu'on leur dise en fait qu'elles doivent être égales des hommes. Elles ont leur rôle, elles ne veulent pas que les hommes viennent prendre leur rôle et elles savent ce qu'elles. Elles ne s'estiment pas soumises du tout. Voilà. Donc d'accord. C'est vraiment un autre système, un autre fonctionnement, puisqu'on a ce système clanique avec chacun son rôle à jouer, sa place. C'est comme les fourmis, quoi. Les fourmis savent exactement chacune ce qu'elles doivent faire pour construire la fourmilière. De la même façon, les hommes, les femmes, les enfants, chacun sait ce qu'il doit faire pour le travail. On parle de travail, pour le travail, pour le collectif. Et donc c'est plus compliqué de parler de féminisme et de la place de la femme, en fait.
Et le, Et la question du territoire, tu dis qu'il y a plusieurs langues, donc ça veut dire qu'il y a un territoire qui est difficile à parcourir ou pour qu'il y ait des regroupements à un moment donné qui font qu'il n'y a pas une fluidité des échanges entre toutes les zones de géographiques.
C'est particulier parce que c'est quand même une histoire qui s'est construite sur des milliers d'années. Et même si tout le monde est arrivé au même moment dans l'histoire, chaque clan a son histoire, en fait, tout le monde est arrivé au même moment, les clans se sont séparés pour s'installer, pour peupler la terre, et chacun a vécu dans son microcosme, a peuplé son microcosme, en accueillant les voyageurs qui arrivaient, qui s'échouaient. Il y a eu des gens de partout, de tout l'océan Pacifique qui sont arrivés, qui ont enrichi ces peuples-là. Et les langues sont restées, en fait, dans ce microcosme, parce qu'en fait, il y avait des échanges au niveau marital, en fait, voilà. Il y avait des échanges, et donc la femme qui quitte son clan et arrive dans le nouveau clan, et elle est imprégnée, elle doit apprendre à comprendre la nouvelle langue. Et ses enfants sont élevés avec cette nouvelle langue-là. Elle n'utilise plus sa langue à elle. Je parle de l'époque. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, les langues sont restées comme ça, alors qu'elles ont la même racine. Elle a été prouvée par des linguistes qu'elles ont la même racine. Il y a des mots qui reviennent, comme « moins », la maison, qui revient un peu partout, surtout dans l'extrême nord. Mais chaque langue a grandi, et puis là, on a les îles Waïté, c'est encore autre chose parce qu'il y a eu beaucoup de monde de Polynésie qui est arrivé. D'accord, donc la langue s'est enrichie aussi au contact des Polynésiens. Et donc voilà, les langues sont vraiment totalement différentes. Et nous, à Balade, on est à 10 km de Puébo. On fait partie de la commune de Puébo, mais on n'est pas en fait à la base de la même chefferie. Mais bon, il a fallu que les colons mettent un peu le bazar là-dedans. Et on ne parle pas du tout la même langue à Puébo et à Balade. Oui. Les enfants dans la cour parlent les deux langues. Ils arrivent à peu près à comprendre, mais ils ne se risqueraient pas à essayer de parler une autre langue parce qu'ils seraient aussitôt moqués, en fait, parce que les accents sont différents. Le A, il y a, je sais pas, 8 façons de prononcer le A. Si ce n'est pas la bonne, même moi, je ne m'y risque pas. Si ce n'est pas la bonne, tout le monde se moque. Et alors, on adore rire, hein, en Nouvelle-Calédonie. On rigole beaucoup de ça et on déteste être moqué. Donc, on ne s'aventure pas. J'ai une de mes cousines, la femme de mon cousin, qui vit chez nous, donc qui vient de Puébo, qui vit à Balade dans la famille depuis son fils a 22 ans, donc au moins 22 ans. Jamais elle se risquerait à prononcer un mot dans la langue en Yanayou, dans notre langue à nous.
Et il y a des traducteurs pour les échanges ou des gens qui connaissent plusieurs des langues des différents clans?
Je ne suis pas certaine de ça. Je ne suis pas certaine parce qu'on a commencé en fait à établir les premiers lexiques quand Françoise Rivière et son mari sont venus dans les années 70.
Ah oui.
Avant ça, il n'y avait pas forcément de pont entre les langues. Même si un locuteur d'une langue différente est capable de comprendre, il ne se risquera pas ni à l'écrire, ni à essayer de prononcer le mot. Donc il y a toujours cette barrière-là.
Et peut-être comme dernière question, la question de... De la nature, bon, on a vu que Louise Michel s'amusait à faire des mélanges de plantes. Je sais pas. Donc, quel est le rapport un petit peu du Kanak avec sa nature environ?
Alors, la première chose à savoir, c'est que la terre n'appartient pas au Kanak, c'est le Kanak qui appartient à la terre, de la même façon que les plantes appartiennent à la terre. Et la terre, c'est la terre de ses ancêtres. Et donc, les plantes ne lui appartiennent pas. Évidemment, c'est un des plus grands écologistes qui existe à l'heure actuelle, puisqu'il vit en totale fusion avec la nature, qu'il plante, qu'il replante, qu'il expérimente les choses, qu'il se soigne avec les plantes. Ça a été des années de... C'est comme ça qu'on est passé, d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, mais des Lapitas, de la civilisation Lapitas à la civilisation Kanak, ça a été des années et des années d'expérimentation pour réussir à faire des plantations, pour réussir à dévier les cours d'eau, pour réussir à nourrir toute la population et à produire encore plus, en fait.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10.
Musique.
saying, long time again. Board, big, sharp, rogue, knight, queen, king, chess, board, big, we're just staying pawns on the game. Board.
La maladie s'est déclarée.